invité vient d'écrire un bouquin que j'ai commencé à consulter, qui est extrêmement intéressant et qui porte le titre « Populisme contre populisme, comprendre la politique américaine aujourd'hui ». Ce livre a été écrit et est écrit par M. Donald Cucciolletta, qui est historien, auteur et essayiste. C'est aussi un spécialiste de la politique et de la culture américaine et fin observateur de la scène internationale et du monde contemporain. Il est membre de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaîne Raoul Dandurand de l'UQAM et du Centre de la politique globale à l'Université de Tsinghua à Beijing, où il a enseigné comme professeur invité. Il a enseigné aussi à l'UQAM, à la Plattsburgh State University de New York et à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, comme spécialiste de la politique américaine, il est souvent appelé à commenter dans les médias la situation politique aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas mettre l'emphase sur la politique de manière globale. Nous allons plutôt parler de ce bouquin, hein, et je reprends, Populisme contre populisme, avec Monsieur Donald Cucciolletta. Bonjour.
Bonjour, bonjour Henri, comment vas-tu?
Je vais bien. En forme?
Oui, en forme, un peu fatigué. La semaine passée était assez dure, merci. Mais là, je me sens beaucoup mieux. Là, j'ai pris une journée quand même de repos, mais j'ai surtout lu. Puis ça me détend. Fait que j'ai lu.
Une bonne nouvelle alors. Alors, oui. Ma première question, hein, puisque le titre du livre, c'est Populisme contre populisme.
Oui.
Bon, c'est quoi la définition de populisme pour vous?
La définition de populisme pour moi, c'est quand que le peuple se révolte, fustige, pointe du doigt les élites de la société américaine et les accusant de dire « Vous n'avez rien fait pour nous, vous faites tout pour vous-même ». Et donc, c'est un peu, en général, ce que j'appelle la définition du populisme. Mais j'ai intitulé le livre « Populisme contre populisme » parce que j'ai vu apparaître, non seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, un populisme qui semble aller vers davantage vers la droite, puis dans beaucoup des cas aux États-Unis, vers l'extrême droite. Mais il y a aussi un phénomène nouveau qui est apparu aux États-Unis, puis un peu partout ailleurs, depuis au moins une trentaine d'années, un certain populisme de gauche aussi. Et c'est pour ça que j'ai intitulé « Populisme contre populisme », parce que historiquement, la gauche, dont j'ai fait partie toute ma vie, a toujours interprété le populisme comme uniquement une idéologie de la droite et de l'extrême droite, particulièrement depuis, on peut dire, les événements de Benito Mussolini au pouvoir, Franco au pouvoir, Adolf Hitler au pouvoir, etc., etc. Et généralement, la gauche, même la gauche radicale, la gauche marxiste, n'a jamais voulu regarder profondément qu'est-ce que ça voulait dire le populisme aussi. Ils ont laissé ça au domaine de l'extrême droite. Puis particulièrement aux États-Unis, on a vu avec la venue de M. Trump au pouvoir, cet extrémiste de droite populiste soulevé sur la base, finalement, on peut dire, cette populiste-là, sur le fait que la classe ouvrière américaine, blanche et en particulier, ont senti que finalement qu'il avait été délaissé par les élites de la société américaine, on peut dire la bourgeoisie américaine, tandis que eux, les travailleurs qui avaient mis énormément d'années à travailler, à gagner leur pain, à vivre le rêve américain, et puis dans certains cas, d'aller même aller faire la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, et tous les autres guerres que les États-Unis font à travers la planète. Et donc, finalement, ils ont dit, c'est bien beau tout ça, on a rempli tout, disons, les casiers nécessaires qui nous défend comme, qui nous définit, je m'excuse, comme un Américain, et vous, l'élite, vous n'avez jamais rien fait pour nous. Puis on sait que depuis au moins les derniers 25 ans, surtout avec la venue du néoconservatisme au pouvoir un peu partout dans le monde, Mme Thatcher, Reagan et compagnie, c'est que la classe ouvrière et les gens de la basse couche de la classe moyenne sont devenus de plus en plus appauvris. Donc, ces gens-là ont regardé les élites et ils disent, ben, qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Donc, on arrive avec Donald Trump qui met de l'avant un populisme d'extrême droite. Mais de l'autre côté, depuis plusieurs années, il y a des idéologues, on pourrait dire, puis même des intellectuels de gauche comme moi, qui regardent le populisme et disent, pourquoi ce soit uniquement l'apanage de l'extrême droite? Pourquoi qu'il n'y a pas un populisme de gauche? Pourquoi finalement il n'y a pas des gens à gauche qui effectivement parlent au peuple? Parce que ultimement, le populisme aussi, c'est qu'il faut aller parler au peuple. Bon, dépendant du discours, ça peut être d'extrême droite, mais dépendant de l'autre discours, ça peut être marxiste, ça peut être radical, ça peut être même social-démocrate, dépendant des situations et des discours. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Populisme contre populisme », puis je me suis ciblé sur les États-Unis, parce qu'effectivement, je suis un spécialiste des États-Unis depuis belle lurette, quoi.
Tout à fait. Mais dites-moi, pour expliquer tout ça, vous faites appel à l'histoire.
Oui.
Hein? Alors, expliquez-nous un peu ce cheminement.
Parce que pourquoi faire l'histoire? Pourquoi? Parce que généralement, on n'a jamais interprété l'histoire américaine, parce que je parle surtout de l'histoire américaine, comme finalement un peu la naissance du populisme vient du peuple américain. Puis généralement, même aux États-Unis, les historiens américains vont surtout cibler la fondation à la fin du 19e siècle, exactement 1890, 91 et 92, un populisme de gauche, un parti de populisme qui a été fondé entre certains travailleurs et surtout les agriculteurs du Midwest américain, qui se sentaient vraiment délaissés encore par les élites, la bourgeoisie, les riches américains, donc effectivement, qui vivaient des moments très durs. On sait qu'à ce moment-là, aux États-Unis, il y a quand même une crise agricole surtout. Donc, je me suis dit, mais pourquoi cibler un endroit et une période précise pour dire que le populisme est né en 1890, 91, 92, puisqu'ils ont formé un parti politique, s'était présenté aux élections même, surtout les élections au niveau de certains États et en la suite à une présidentielle aussi. Puis je me suis dit, mais il me semble que le populisme, ça part du peuple. Puis c'est là que j'ai commencé à interpréter la question de la Constitution américaine qui débute avec trois mots, ou quatre finalement, ben, un article en anglais, mm-hmm. « We the people mm-hmm. », nous, le peuple. Et c'est là que j'ai pris ça, puis j'ai appliqué ça à des événements précis qui ont marqué l'histoire américaine. J'ai pas fait dans le premier chapitre toute l'histoire américaine, j'en aurais pour 600 pages et plus même. Mm-hmm. Mais j'ai regardé certaines choses qui sont vraiment précises, qui ont fait avancer ou même créer la société américaine, la révolution américaine, les révoltes qu'ils ont eues par la suite un peu partout à travers certains États, donc les 13 nouveaux États qui étaient fondés à ce moment-là. Par la suite aussi, dans la grande crise comme telle, où les peuples spontanément aux États-Unis se sont regroupés et ont pris contrôle de certains centres-villes, finalement, des actions populistes, finalement, indépendamment même des partis en place, républicains, démocrates. Et même à ce moment-là, même le Parti communiste américain des années 20, 30, 40, qui était quand même plusieurs membres du Parti communiste, ont commencé aussi en s'adressant aux problèmes de la population, puis ils ont utilisé un langage populaire. Ils ont finalement laissé tomber les grands discours sur ce quoi les communistes sont connus, puis effectivement, étant un peu au-delà de la tête de la population générale, puis on dit, mais il faut qu'on parle au peuple. Mais c'est ça, il faut parler au peuple. Et donc, ils ont amené des solutions compréhensibles, pragmatiques, concrètes, que la population américaine a embarquées. C'était ça, un populisme de gauche qui venait de prendre naissance. Et puis, à ça, on arrive dans les années 60, parce qu'on peut dire, avec les bouleversements pendant une décennie aux États-Unis, ça a été la même chose, surtout par rapport au mouvement des droits civiques, allant finalement de Martin Luther King, Malcolm X, etc., etc., jusqu'aux Black Panthers. Puis après ça, on arrive à la position aujourd'hui, mm-hmm. avec la venue, on peut dire, de Bernie Sanders. Bernie Sanders, qui a toujours été considéré, il se considérait comme quelqu'un qui était de gauche, un socialiste. Il se dit aujourd'hui socialiste démocratique. Donc, voir que lui aussi, il a pris la même parole, pas populisme, mais un populisme qui approche les peuples. Les populismes, finalement, qui amènent des solutions d'une façon pragmatique au peuple. Et beaucoup moins d'idéologie, beaucoup moins de grands discours. Et c'est ça qui a commencé à démarquer, selon moi, le populisme de gauche, le populisme d'extrême droite. Et la différence à faire entre les deux, c'est quoi la solution que l'extrême droite prône, mm-hmm. et c'est quoi finalement le populisme de gauche prône au niveau des réponses aux problèmes de la population. Et on voit vraiment deux visions différentes par rapport à l'avenir d'une nouvelle société de la part de la gauche, puis évidemment celle d'extrême droite, mais c'est clair, ça mène beaucoup sur une pente glissante vers l'autoritarisme, le néofascisme, puis dans certains cas, finalement, le néonazisme. Donc, on commence, puis de plus en plus, la gauche, on peut dire, particulièrement en Europe, on commence à regarder ce populisme de gauche comme, disons, le mur pour stopper la montée d'un populisme d'extrême droite. Puis ça commence aussi au Québec un tout petit peu, un peu au Canada, mais particulièrement aux États-Unis.
D'accord.
Donc c'est pour ça que j'ai ciblé les États-Unis, puis j'ai dit, ben, populisme contre populisme. Donc c'est un apprentissage, il faut le dire, pour la gauche en général, de se réapproprier un mot qui aurait dû d'être départ appartenir à la gauche finalement, parce que c'est la gauche qui se pouvait être beaucoup plus proche du peuple dans les solutions pragmatiques et concrètes, mais à travers le temps, le populisme de droite et d'extrême droite a pris le devant, parce que les leaders sont beaucoup plus charismatiques, et effectivement, ce sont des leaders qui sont capables de faire des grands discours, puis amener le monde, et tout ça. Fait qu'on a laissé ça à eux, fait qu'on avait un peu, la gauche avait de la misère de se dire, je suis un populisme de gauche.
Ah,
mais
d'accord.
Aujourd'hui, il y a de plus en plus qui le disent, particulièrement aux États-Unis.
D'accord. Mais dites-moi, vous, à un certain moment donné, et vous abordez vous posez la question finalement, est-ce que le rêve américain est mort? Mais juste avant, vous faites aussi un lien avec la réduction de la population blanche aux États-Unis. Donc, si j'ose mettre les deux ensemble, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet?
Ah, absolument. Il faut dire que les États-Unis ont toujours été un pays d'immigration, hein, un peu comme ici au Québec puis au Canada. Bon, puis malheureusement, il y a des gens qui n'ont jamais accepté cela, mais il faut dire aussi que depuis plusieurs années, les États-Unis, au niveau de son immigration, ne fait plus d'immigration, on peut dire, qui venait de l'Europe, puis que la plupart de la population blanche venait de l'Angleterre, venait de l'Allemagne, la France, certaines parties de la France, certaines parties de l'Italie, etc. Mais de plus en plus, avec l'immigration américaine, c'est surtout qu'il vient de l'Amérique latine. Puis là, je parle d'une immigration légale, là. Je parle pas d'une immigration illégale. Je parle d'une immigration légale. Donc, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, qui fait que ces gens-là ne sont pas nécessairement des gens blancs. Hein? Ils sont des multicolores, finalement, ils sont noirs, ils sont mulâtres, ils sont asiatiques, etc., etc., qui fait que la population blanche qui a sacrifié beaucoup, beaucoup en tant que travailleur, puis on parle de population blanche dans la classe ouvrière surtout, et qui ont fait les guerres, qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, la Première, la Deuxième, et toutes les guerres que les Américains ont fait. Mais petit à petit, on a vu que même la population noire a fait la guerre du Vietnam. La population noire était à la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est simplement quelques régiments. Mais la guerre de Corée, à moitié des troupes, la guerre de Corée était des Noirs. La même chose au Vietnam. Même en Vietnam, jusqu'à 65% des soldats au Vietnam étaient des Noirs. Donc, vous voyez, finalement, la démographie de la société américaine disons, l'image des États-Unis commence à changer. Puis avec les droits civiques, les Noirs veulent être reconnus par les sacrifices qu'ils ont faits, même depuis l'esclavage, d'avoir les droits égaux vis-à-vis aux Blancs. Et là, les Blancs, effectivement, ceux qui sont déjà de droite, conservateurs du Midwest, du sud des États-Unis, commencent à dire, écoutez, ce pays-là ne nous appartient plus, là. Elle appartient aux autres. Et moi, j'ai fait des sacrifices pour construire ce pays-là. Qu'est-ce qu'on fait pour moi aujourd'hui? Et c'est là qu'est venue l'idée de la suprématie blanche, qu'on a déjà vu dans le Ku Klux Klan, qui était vraiment des groupes ici et là, mais il n'y avait pas cette unité de suprématie blanche qu'on voit aujourd'hui. Ça s'est uni sur le plan idéologique. Et effectivement, ces gens-là sont devenus de plus en plus d'extrême droite, des milices et tout ça qu'on peut voir aux États-Unis. Et en plus, ils ont commencé à regarder le rêve américain. Puis ils étaient les premiers à dire, hein, le rêve américain ne nous appartient plus. On n'a plus de rêve américain. Nous, on s'appauvrit, on se fait mettre de côté parce qu'on est blanc. Les bien-pensants richissimes du Parti démocrate, surtout, pensent que finalement, c'est les Noirs qui doivent... En tout cas, toutes les idées qui peuvent sortir de ce populisme d'extrême droite-là. Et donc, ces gens-là ont commencé à se battre, à s'armer, etc., etc. Puis là, arrive Donald Trump, qui est un peu leur, disons... Le héros à la Maison-Blanche qui dit « je comprends très bien qu'à Charlottesville, en Virginie, finalement, il y avait des bons mondes des deux côtés. Hein, des deux mondes. Du côté Ku Klux Klan, il y a des bons mondes. » Donc, tous ces gens-là se sont sentis, qu'on appelle en américain, « empowered ». Ils ont senti qu'il y avait quelqu'un à Maison-Blanche qui les soutenait. Ils sont devenus de plus en plus forts. Et c'est eux qui ont voté massivement en 2016, mais même encore en 2020. 71 millions de personnes qui ont voté M. Trump. Ça veut dire que c'est un cohorte qui a grossi, grandi, et puis leur réponse à leur dilemme, c'est le racisme, c'est retourner les immigrants, c'est retourner finalement bâtir les murs, c'est de tenter de refaire une histoire avec la base de la suprématie blanche au centre de tout ça. Bon, écoutez, ça fraude dans certains États du néo-nazi, dans d'autres États, c'est pas loin du fascisme, puis dans d'autres États, mais c'est clairement l'autoritarisme qui mène. Fait que et c'est de là que je fais les deux. Tandis que les Noirs, eux autres ici, ils croient que le rêve américain n'est plus leur rêve, n'a jamais été leur rêve. Ça, c'est la première des choses. Les autres n'ont jamais dit on a vécu le rêve américain. Ça n'a jamais été la nôtre. Ils n'ont jamais reconnu notre esclavage. Ils ont continué avec la ségrégation raciale. On est obligé de se battre pendant 50 ans pour les droits civiques. Puis aujourd'hui, on est rendu à une situation où est-ce qu'on dit que les États-Unis, ils pratiquent le racisme systémique. Donc, pour nous, il n'y a pas de rêve américain. Il n'a jamais existé. Les hispanophones disent la même chose. Les asiatiques, on parle la même chose. Puis on parle toujours de la classe ouvrière, hein, qui sont majoritaires dans tous ces différents groupes-là. Mais la réponse, ce que les gens font, ces fantômes-là, c'est la lutte, améliorer la société en général. Pas de se grouper en petits groupes et dire qu'il faut mettre les autres dehors, il faut les foutre dehors du pays, il faut les retourner à leur pays d'origine. C'est pas ça qu'ils disent. Ces gens-là, ils disent non, que faisons un pays pour l'ensemble des gens. Fait que c'est vraiment une division au niveau du populiste versus du populiste, une division idéologique, hein, profondément idéologique aussi.
D'accord. Et vous dites que cette division, en fait, vous l'avez constatée depuis la naissance des États-Unis jusqu'à maintenant.
Oui.
Et en plus que ça a été exacerbé par Donald Trump.
Oui.
Et comment se manifeste le populisme de gauche, lui? Parce que, bon, normalement, dans le livre, dans ce que j'ai lu, vous mettez l'emphase comme étant Occupy Wall Street, comme étant le début, en quelque sorte, du populisme de gauche. Quels sont les éléments les plus importants de ce populisme?
C'est que Occupy... Puis le monde, en tout cas, malheureusement, le monde pense que ça a eu lieu simplement à New York. Non, ça a eu lieu en 200 villes américaines. 200 villes américaines occupées. Puis ça a duré un bout de temps. Évidemment, ça a été évacué par la police, hein, il faut le dire. Hein. La police a fait un nettoyage pour les enlever d'un occupé partout dans les 200 villes. Mais ces jeunes-là, puis il faut voir, c'est une question générationnelle aussi, ce populisme de gauche, parce que c'était une nouvelle génération qui se trouvait dans la rue. C'est pas nécessairement des gens qui travaillaient à Wall Street qui se sont devenus désenchantés de Wall Street. C'est tout le monde, finalement, qui ont saisi que, finalement, c'est Wall Street, la classe capitaliste qui dominait les États-Unis, puis que la pauvreté que eux, les jeunes blancs, les jeunes noirs, les jeunes asiatiques, les jeunes hispanophones, les hommes et femmes et tout ça, indépendamment de leur niveau d'éducation, vivaient toujours une sorte de pauvreté. Donc, ces gens-là ont décidé de dénoncer, effectivement, les élites, la bourgeoisie, les capitalistes américains pour dire finalement, vous êtes des partis au pouvoir, républicains et démocrates, et ont ciblé les deux, qui défendaient finalement la classe capitaliste américaine. Donc, Occupy, c'était ça. Durant Occupy, que c'est assez intéressant, ils ont comme vécu une sorte de village d'Occupy dans 2200 villes. Les gens demeurent là, couchent là, mangent là. Puis en plus, on avait effectivement des discussions à tous les soirs. Les gens se regroupaient par petits groupes pour faire des séminaires sur Marx, Antonio Gramsci, qu'est-ce que ça veut dire d'être un Américain aujourd'hui au 21e siècle, qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être pauvre, d'être riche, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire américaine. Et c'est comme ça qu'a évolué l'idée de populisme de gauche, parce que ces gens-là n'avaient pas aucun lien avec les populistes d'extrême droite, ni les deux partis en place qui dominent la scène politique américaine, et même, on peut dire, les élections américaines, républicains et démocrates. Non, ils disaient, on est ici, nous, dans la rue. On a toujours été dans la rue, puis là, on est une nouvelle génération qui demeure dans la rue. Et c'est de là que, finalement, l'idée de populisme, l'idée d'une culture nouvelle, une culture qu'il faut dire aussi, qui était englobée aussi par ce qu'on appelle le hip-hop generation, hein, les groupes rap, les groupes hip-hop, Public Enemy, etc., etc. Ça veut dire une nouvelle génération qui mène la lutte d'une façon à gauche, à populiste, mais en même temps qui mettent de l'avant leur culture, les pièces de théâtre qui se jouaient finalement dans différents parcs à New York, dans les autres 200 villes, des pièces de théâtre qui condamnaient finalement la classe capitaliste américaine. Et c'est à partir de ce mouvement-là que finalement on a commencé à réaliser qu'il y avait autre chose au populisme que simplement le populisme d'extrême droite. Par les groupes Ku Klux Klan, etc., etc., les racistes, les suprémacistes blancs, etc., etc. Il y avait autre chose, et on l'a vu encore à Portland, dans les manifestations à Portland l'été passé, avec 30 jours d'émeutes, mais aussi dans le centre-ville de Seattle, où est-ce que ces mêmes jeunes et cette même coalition de jeunes ont occupé le centre-ville de Seattle pendant 2 semaines et demie.
Mais dites-moi.
Ça s'est jamais vu dans l'histoire américaine, tout ça, là. C'était la première fois qu'on voyait des choses pareilles. Finalement, ils ont même occupé le centre-ville de Chicago, le centre-ville d'Oakland, le centre-ville de Milwaukee. Dans le fond, c'était un retour à Occupy. Et donc, ils ont continué dans la même lignée. Puis moi, je me dis, tout ça va continuer, selon moi. Puis ça n'arrêtera pas, même si M. Biden est au pouvoir. Il est simplement un nouveau porte-parole pour la classe capitaliste, selon moi. Puis effectivement, la bataille va continuer. C'est assez intéressant, ce même monde-là qui ont occupé Seattle, Portland, puis même avant, Occupy un peu partout dans les grandes villes américaines, ils ont dit, on est dans la rue pour célébrer le départ de M. Trump, mais là, on va être dans la rue pour combattre et célébrer le départ de Joe Biden aussi.
Également.
Fait que vous voyez, non seulement une nouvelle conception du populisme vers un populisme de gauche, mais une nouvelle génération qui voit la vie différemment que ces vieilles classes politiques qui ne répondent plus aux besoins de cette nouvelle génération non plus.
C'est sur ces mots, M. Couturier-Tage, que je vous dis merci. Et je pense qu'il faut qu'on continue la conversation et parce qu'il y a plein de choses là. Donc il faudrait
Oui, absolument. Les États-Unis sont en bouleversement. Ils se cherchent. Et effectivement, c'est sûr que M. Trump a aiguisé la situation par rapport à ses politiques et son comportement. Mais détrompez-vous, M. Biden n'en fera pas mieux. Hein? M. Biden est le porte-parole d'une classe capitaliste au même titre que M. Trump, puis qu'effectivement, il va défendre ses intérêts. Puis il y a bien du monde, beaucoup d'analystes aux États-Unis disent que la période Obama-Biden qui ont mis de l'avant une politique néolibérale puis avec l'austérité qui a suivi, effectivement, les autres ont pavé la voie pour M. Donald Trump.
Voilà.
Puis là, on retourne avec Joe Biden. Donc, c'est pas fini tout ça.
C'est pas fini, c'est le mot de la fin aussi. Merci beaucoup et à bientôt.
Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon courriel, il n'y a pas de problème.
Merci.
Plaisir, au revoir.